Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL. Thomas Hugues.
Comme chaque semaine, nous avons le bonheur de retrouver Géraldine, Danon, Philippe Poupon et leurs trois enfants à bord de leur voilier, le Fleur Austral. Ils sont arrivés cette semaine à Miami, en Floride, après quelques jours passés à La Havane, à Cuba. Ça, c'est pour vous situer. Tout de suite, on accueille Géraldine. Bonsoir.
Bonsoir, Sylvanie.
Votre voyage dans les Caraïbes s'achève dans quelques jours. On est un peu triste de vous quitter bientôt. Et pour notre dernier rendez-vous dans la curiosité est un vilain défaut, vous aviez envie de faire un petit point sur votre découverte et vos quelques jours à La Havane. Alors c'était comment ?
Ah oui, parce qu'on est encore plein de La Havane. On vient d'arriver à Miami. Oh bah c'est, on est allé à la rencontre des gens. Hein. Je vous le disais, autrefois, les gens sont formidables dans ce pays. Il y a cette musique omniprésente, cette musique cubaine. Et puis ces gens chaleureux, sympathiques, accueillants. Bon, moi, j'étais allée en 95. Les choses ont pas mal changé depuis. Ça s'est amélioré, on va dire. Ça va dans le bon sens. Bon, il y a encore beaucoup de choses qui pourraient être améliorées. Hein. On espère vraiment une levée de l'embargo. Mais il y a eu pas mal de restauration, surtout. Alors, il y a un vrai décalage à La Havane entre la place centrale avec ses beaux monuments, les vieux palais qui ont été superbement restaurés. Et puis la vieille ville qui a été inscrite au patrimoine de l'UNESCO avec certains palais qui sont devenus des hôtels ou bien des paladars. Avant, il y avait que les restaurants d'État. Maintenant, il y a toutes ces vieilles demeures, pour la plupart magnifiques, transformées donc en restaurants. Et on y mange très bien. Alors ça a changé parce que c'était pas le cas. Et puis c'est pas le cas partout ailleurs dans Cuba. Le service est bien meilleur que dans les restaurants d'État. C'est beaucoup moins cher. Et je peux vous dire qu'ailleurs, vraiment, c'est très mauvais. C'est là, autant on mange bien partout dans les Caraïbes, autant c'est important quand même la nourriture pour nous qui sommes souvent en mer. Quand on arrive à terre, c'est important. Et quand on demande à un Cubain, d'ailleurs, quelles sont les trois réussites de la révolution cubaine, il vous répond, eh bien, la fierté nationale retrouvée, la santé, l'éducation. Et quand on lui demande quels sont les trois échecs, il vous répond le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.
C'est très drôle, ça.
Maintenant. Ça, c'est pas l'adard, en tout cas ici à La Havane.
Oui, c'est l'humour cubain, Géraldine. Vous y étiez allée en 95, la dernière fois, c'est ce que vous venez de nous dire. À quelle occasion vous étiez allée là-bas?
Mais moi, comme je vous l'ai dit l'autre fois, mon père a passé toute sa jeunesse à La Havane. Ma grand-mère y est enterrée, donc c'est un endroit où j'étais pas retournée depuis 95, mais où je suis allée plusieurs fois. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai décalage entre justement cette place centrale restaurée, tous ces palais qui sont peu à peu restaurés. Et puis dès qu'on s'éloigne du centre, là, on retrouve des vieilles maisons sur le point de s'écrouler, dans lesquelles les Cubains s'entassent, elles sont totalement insalubres. Il y a des millions de familles qui vivent dans des situations sanitaires vraiment lamentables. Les sols sont défoncés, les réseaux électriques sont en lambeaux, elles n'ont pas l'eau courante. Sans compter que lorsqu'il y a des fortes pluies non drainées qui engorgent les murs, eh bien la structure tout entière menace de s'écrouler. C'était le cas là quand on y était. On est passé carrément de... Quand je vous ai eu la semaine dernière, il y avait 15 degrés de moins que quand on a quitté La Havane. Il y a eu un vrai coup de froid, ils n'avaient jamais connu ça d'ailleurs. Aussi froid. Et le Malecón, qui est donc cette grande avenue qui borde la route, je vous avais dit que les vagues submergeaient les voitures quand on est arrivé en pleine tempête. Et là, ils étaient recouverts de sargasses. C'était assez étonnant. On a rencontré ces sargasses qui sont ces algues. Ça, c'est un phénomène nouveau un peu dans les Antilles, que ce soit les grandes Antilles ou les petites Antilles. On en a rencontré tout au long de notre voyage.
Géraldine Danon, qu'est-ce qui fonctionne le moins bien pour ces familles cubaines qui souffrent de la pauvreté? Le réseau électrique, l'eau courante, racontez-nous ça.
Tout ça, oui, c'est ces sols défoncés, ces réseaux électriques, ils n'ont pas d'eau courante. Alors, ils ne veulent pas bouger quand on essaie de les déplacer, parce que ça menace vraiment de s'écrouler, hein, ces maisons. Mais ils ne veulent pas bouger, ils sont attachés à leur tradition, comme ils sont attachés à leur mur. Ils préfèrent rester là plutôt que d'être déplacés dans des logements nouveaux. Ils ont très peur, les anciens ont très peur de tout ce qui peut être nouveau. Même la levée de l'embargo, d'une certaine manière, leur fait peur.
En revanche, les Cubains, vous avez
dit... Le salaire minimum, ils reversent tout à l'État. Un chauffeur de taxi, par exemple, qui gagne 65 dollars par jour à l'État, et ça paye, son salaire à la fin du mois est de 10 dollars. Donc c'est assez, et c'est un peu le cas partout, même dans ces paladars, là, qui sont donc ces maisons transformées, ces palais transformés en restaurants, ils reversent 3 000 dollars chaque mois à l'État.
Géraldine Danon, vous disiez que les Cubains étaient très fiers de leur système de santé. Pourquoi ils fonctionnent comment ?
Ah, ça, c'est vraiment l'éducation et la santé, c'est vraiment la réussite. La santé est accessible à tout le monde. Elle est totalement gratuite. En 2014, Cuba a atteint d'ailleurs le taux de mortalité infantile le plus bas de son histoire. Je crois qu'il y a 4 pour 1000 enfants décédés. C'est le taux le plus faible de toutes les Amériques. Et il y a un médecin pour 148 habitants. Tous les jeunes Cubains, enfin tous, j'exagère, mais beaucoup de jeunes Cubains veulent devenir médecins. Il faut dire que ça leur donne le droit à de nombreux avantages. Quand ils reviennent de leur mission à l'étranger, ils peuvent acheter une voiture, ils peuvent se faire construire une maison, ils peuvent avoir accès à Internet, parce qu'il faut savoir que seul 1,7% de la population a accès à Internet. Et la spécialité à Cuba, c'est l'opération de la cataracte. On vient de tous les pays, hein, du monde entier, pour se faire opérer de la cataracte. Les médecins sont vraiment très compétents. Partout, que ce soit à La Havane ou dans les autres villes, mais bon, dans toutes les spécialités, hein, pas seulement la cataracte, mais il manque cruellement de médicaments, ça c'est vraiment le problème, il manque beaucoup de médicaments.
Cuba, c'est aussi évidemment le grand écrivain et journaliste américain Ernest Hemingway. Il y a vécu dans les années 30-40, si je ne me trompe. Est-ce qu'on sent encore la présence d'Hemingway ? Est-ce qu'elle est mise en valeur à La Havane ?
Ah oui, oui. Il y a vraiment trois présences, il y a Castro, il y a Le Che et il y a Ernest Hemingway. Il est très présent partout. On est allé visiter d'ailleurs son manoir, la Finca Vigia. Tout y est, il y a son yacht en bois, le Pilar. Alors il allait à la pêche au Marlin. La marina où nous étions d'ailleurs porte son nom, c'est la marina Hemingway. Il est arrivé à La Havane en 1932 et on dit que c'était pour la pêche au gros, mais il semble qu'il n'y ait pas que la pêche qu'il attirait. Je crois qu'il y avait les filles aussi, il faut dire qu'elles sont très belles les filles hein, à Cuba. Les Cubains l'appelaient Papa. Il a écrit quelques-uns de ses chefs-d'œuvre comme En avoir ou pas ou Le vieil homme et la mer, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, Le vieil homme et la mer, il a écrit là-bas, je crois. Mmh. Et le reste du temps, il était bien dans les bars. Il a inventé tous les cocktails de La Havane. Alors, les deux bars les plus célèbres sont la Bodeguita del Medio et le Fioridita. Et ils lui doivent leur notoriété. Dans un, il disait « Je bois mon mojito à la Bodeguita del Medio et je bois mon daiquiri au Fioridita ».
Et vous avez suivi ses traces
hein, il était le plus heureux sur son yacht, donc le Pilar. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, le Pilar, son yacht, était équipé de bazookas. Et Hemingway était devenu agent de renseignement. Il traquait les sous-marins allemands. Et il s'est suicidé en 1961. On dit qu'il était atteint de paranoïa totale et qu'il se croyait surveillé à la fois par les Cubains et à la fois par la CIA. Donc il est mort, paranoïaque complet.
Géraldine Danon, vous restez avec nous, surtout ne raccrochez pas. Je sais que vous êtes à Miami et que la ligne ne passe pas toujours bien, mais on a encore plein de questions à vous poser, et sur La Havane et sur Miami, évidemment. À tout de suite sur RTL dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 22h. RTL.
Curiosité d'un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est la dernière étape de leur périple dans les Caraïbes. Géraldine Danon, Philippe Poupon et leurs enfants à bord du Fleur Austral. Ils sont cette semaine à Miami en Floride après plusieurs jours passés à La Havane à Cuba. Géraldine, je sais pas.
Du rap cubain.
Ben voilà, la liaison est pas très bonne. J'espère que vous entendez bien la musique.
Ouais, vous entendez très mal là.
Non, on vous entend pas trop mal, mais la musique qu'on vient d'écouter là, c'est une sorte de rap cubain que André Facetta, notre réalisateur, a trouvé. Elle est beaucoup jouée à La Havane.
Oh oui, il y a pas mal de rap cubain, je sais pas, celui-là je l'ai pas entendu en particulier, mais oui, le rap cubain et la musique à la mode en ce moment, oui.
Et alors comme la liaison est pas super bonne, vous avez pas entendu ma question tout à l'heure concernant Hemingway, est-ce que vous avez suivi ses traces de bar en bar pour siroter mojito et autres daiquiri ?
Ah, je vous entendais pas, non, c'est vrai, j'ai parfois un mauvais retour. Là, je me suis rapprochée de la base du téléphone, ça doit être mieux. En tout cas, oui, j'ai suivi ses traces. Je suis allée boire le mojito à la Bodeguita del Medio et le daiquiri. Au Fioridita. J'en ai même bu deux pour ne rien vous cacher.
Bon, il est bon.
Il est très bon. Oui.
On l'a évoqué, Géraldine, la semaine dernière, La Havane, ça fait partie de vous. Votre grand-mère a été enterrée au cimetière Christophe Colomb. C'est le plus grand cimetière du monde, c'est ça ?
Ah oui, et pour cause, parce que nous, on a passé 2 jours pour la trouver, la tombe de ma grand-mère. Ça a été épique. C'est le plus grand cimetière du monde. Il y a des monuments de partout. Et elle est enterrée dans la colonie, enfin avec la colonie française des Cubains. morte en 1944. Elle est morte très jeune, à 45 ans. Donc on a mis 2 jours pour réussir à trouver la tombe. On connaît bien le cimetière Christophe Colomb maintenant, mais c'était vraiment un temps fort de notre voyage. Les enfants ont pu se recueillir sur leur tombe de leur arrière-grand-mère. Avant, elle était enterrée seule, et puis après, ils ont pris tous les Français morts à Cuba et les ont mis dans la même tombe.
C'est un beau cimetière, ce cimetière, Géraldine Danon.
Ah, il est magnifique. Regardez sur le site de Fleur Australe, j'ai mis des photos, il est vraiment magnifique. D'ailleurs, les gens vont le visiter, hein. Ça fait vraiment partie des visites qu'on fait. Il est magnifique.
Il est magnifique parce qu'il est coloré, pour bien l'imaginer, les pierres tombales sont bien mises en valeur.
Pas toutes, évidemment, mais la plupart des tombes sont vraiment des sculptures, des monuments. Il y a une petite chapelle au milieu qui est assez magnifique. Enfin non, c'est un très très beau cimetière.
Géraldine Danon, vous avez donc quitté la Havane, vous êtes maintenant à Miami. Le choc n'est pas trop violent de se retrouver dans cette capitale de la Floride qui est quand même assez gigantesque.
On vient d'arriver, donc voilà, et en même temps, c'est aussi un petit peu ce dont on a envie, en particulier les enfants, je dirais, parce que c'est vrai qu'après 3 mois de mer, on a envie de civilisation, de... ce qui est curieux quand même, c'est que vous me dites que la liaison passe mal, on a réussi à avoir une bonne liaison quand on était dans les endroits les plus improbables en
Asie. C'est vrai.
Et là, on se retrouve à Miami avec une mauvaise liaison, donc c'est l'ironie du sort. Non, on est content d'arriver, on est content d'arriver en ville.
Vous aviez envie de civilisation, Géraldine Danon, et vos enfants aussi. C'est quoi la première chose que vous avez faite en arrivant?
On est allé se balader dans les rues. Eux, ils sont contents parce qu'ils retrouvent tout ce qu'on essaye de leur éviter. Hein. C'est aussi pour ça qu'on est en mer, pour être loin de cette société de consommation. Mais eux, ils sont contents de retrouver les magasins.
Des hamburgers, des jeux vidéo.
Les hamburgers, voilà. Les hamburgers, ça a été la première chose. Ah, ils rêvaient des hamburgers. Ouais.
Voilà, il faut aller dans le quartier Art Déco ou dans le quartier Art District. Voilà, il y a de l'art urbain, du street art qui est magnifique à voir à Miami. C'est notre dernier rendez-vous. Géraldine, il faut faire un peu le bilan. Quel souvenir vous garderez de ce périple dans les Caraïbes, dans les Antilles?
Beaucoup de souvenirs, hein, beaucoup de souvenirs. On garde en mémoire les bons souvenirs. On va essayer d'oublier l'épisode pirate en Haïti qui a laissé évidemment des traces indélébiles. Mais on se souvient de toutes ces belles rencontres en République dominicaine avec tous les acteurs de l'environnement, tous ces gens qui œuvrent pour améliorer le tout ce qui est écosystème. On se souvient de toutes ces plongées sublimes qu'on a faites. Et puis je crois que quand même, malgré cet épisode, le temps fort reste quand même Haïti. Toutes ces magnifiques voiles qu'on a pu croiser, les sourires de ses enfants quand Marion leur offre son vélo, des adultes qui nous tendent les bras pour nous vendre des langoustes. On n'oublie pas le dévouement de Mika, de la Fondation du Paradis des Indiens, qui donne toute son énergie pour aider les enfants d'abricots à accéder à un monde meilleur. C'est vrai qu'on souhaite vraiment que, comme elle, il y ait beaucoup de gens qui œuvrent pour qu'Haïti retrouve sa splendeur d'antan et que ce peuple si attachant trouve un équilibre de vie sous le soleil des Caraïbes, parce que c'est vraiment le tiers-monde dans une Caraïbe qui, dans les autres îles, a su plus ou moins relever le défi. Voilà, on retient aussi toutes ces belles navigations, même s'il y en a eu beaucoup auprès, vent dans le nez, que ça n'a pas toujours été facile, parce qu'on croit toujours que les Antilles, eh bien, ce sont des navigations faciles. Ça dépend, quand on a le vent et les alizés, c'est le cas, quand on est à contre, c'est plus laborieux. Et puis, il y a tout un tas de photos, un film que j'ai fait, là, que je vais m'apprêter à monter quand je vais rentrer, et qui va réveiller tous ces souvenirs formidables en nous.
Votre bateau, Géraldine Danon, vous allez le laisser à Miami, c'est ça? Et vous allez rentrer comment en France?
Là, on rentre en France en avion dimanche. Moi, j'attaque un film de Jacques Richard pour le cinéma. Et puis après, on repart en mai pour convoyer le bateau jusqu'à New York. Et le 1er juin, on repart pour une grande expédition dans le Grand Nord. On avait déjà, c'était la première expédition qu'on avait fait. On avait fait le passage du Nord-Ouest en 2009. Et là, dans le passage du Nord-Ouest, on a des dates précises. Donc, on est obligé de tracer parce que sinon, on se fait rattraper par la nuit. Alors, d'un côté, il y a la glace. Il faut jouer, attendre le plus possible pendant la débâcle l'été. Mais en même temps, ne pas attendre trop longtemps parce que sinon, c'est la nuit. Et là, du coup, on va pouvoir traîner plus longtemps vers le Groenland et essayer d'atteindre le pôle Nord, d'aller le plus près possible du pôle Nord jusqu'à ce, La banquise nous arrête. Vous m'entendez là ?
Mais entre ces deux périples, vous allez passer nous voir rue Bayard le 3 mars prochain dans l'émission de Stéphane Bern. À la bonne heure, on viendra vous faire une bise.
Merci beaucoup Géraldine, merci d'avoir partagé avec nous ces aventures dans les Caraïbes et votre mission pour la préservation des océans.
Vous écoutez RTL.